Vous écoutez On lit pour vous.
La saison des célébrations de la fierté est de retour. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 22 mai 2024 dans le magazine Fugue. Avec le mois national de la fierté en juin, c'est le retour de la saison des célébrations de la fierté qui se tiendront cet été au Canada et dans une grande partie du monde occidental. Les célébrations de la fierté sont une alliance heureuse et complexe de festivités, de commémorations, de célébrations et de résistance. Au fil des décennies, les festivals et les défilés de la fierté ont beaucoup contribué à mettre en évidence les enjeux et les réalisations des communautés LGBTQ+, et à les faire connaître au sein de la population. La saison de la fierté, qui débute officiellement en juin, désigne le large éventail d'événements qui se déroulent partout au Canada au cours de l'été, de juin à septembre, pour célébrer les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, bispirituelles ou qui utilisent d'autres termes liés à la diversité sexuelle ou de genre et honorer les contributions qu'elles ont apportées et continuent d'apporter à la société. Historiquement, les rassemblements de la fierté sont nés des premières manifestations à grande échelle pour les droits des personnes LGBTQ2+. Au Canada, les premières manifestations ont eu lieu à Ottawa et à Vancouver en 1971. En 1979, des événements liés à la fierté ont eu lieu à Montréal, alors que 52 personnes se réunissent spontanément pour souligner les 10 ans de Stonewall. Pendant une douzaine d'années, les célébrations-manifestations de la fierté se tiennent à Montréal autour du week-end de la fête du Québec, la Saint-Jean-Baptiste. La fin de semaine de la fierté à Toronto, en juin, figure maintenant parmi les plus importants événements consacrés à la fierté en Amérique du Nord, et Montréal produit sur plus de 10 jours le plus important festival de la fierté au Canada et de toute la francophonie. Les débuts du mouvement de lutte pour les droits LGBTQ+. Le Canada a une longue et riche histoire dans la lutte pour les droits des personnes LGBTQ+. C'est à partir du 14 mai 1969 que le Canada a commencé à décriminaliser les actes homosexuels entre adultes consentants. 2 ans plus tard, le 28 août 1971, environ 100 personnes se sont rassemblées sur la colline du Parlement pour la première manifestation et marche de libération des personnes homosexuelles au Canada, lors de laquelle les organisateurs ont présenté une pétition au gouvernement avec une liste de 10 revendications pour l'égalité des droits et des protections. Au cours de la décennie, les manifestations de la fierté se sont répandues dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal en 1979. Pourtant, la discrimination et la violence contre les personnes de LGBTQI+ sont restées courantes. Le 22 octobre 1977, 50 policiers armés ont fait une descente dans 2 bars gays de Montréal et arrêté 146 clients, principalement des hommes gays. Ils ont été retenus en cellule pendant plus de 8 heures, forcés de passer des tests de dépistage des maladies vénériennes, tout en se voyant interdire d'appeler leurs avocats. Le lendemain, des protestations massives ont éclaté dans la ville. À Montréal, les descentes lors du party Sex Garage en 1990, au bar Catacombe Cox en 1994, ont aussi suscité la grogne des communautés LGBTQ+. Un autre affrontement à grande échelle entre la police et les manifestants s'est produit après une descente de police le 5 février 1981 dans 4 bains publics gays à Toronto. Ces interventions faisaient partie de ce que la police a appelé « Opération Savon » et 300 clients ont été arrêtés. Ce ne sont que quelques exemples d'un système permanent d'oppression et de zèle policier envers les communautés de LGBTQI+, qui avaient cours à cette époque. Vers l'égalité. Un changement positif est survenue lorsque le Québec a modifié sa Charte provinciale des droits et libertés de la personne le 16 décembre 1977 pour inclure l'orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination, devenant ainsi le premier gouvernement au Canada à le faire. À l'échelon fédéral, un pas vers l'égalité a été franchi le 27 octobre 1992 lorsque la Cour fédérale a levé l'interdiction faite aux personnes homosexuelles de s'enrôler dans l'armée, mettant fin à ce qu'on appelait « la purge LGBT ». Ce fut le résultat du procès de Michelle Douglas après son renvoi des forces armées canadiennes parce qu'elle était lesbienne. Une autre étape positive a été franchie le 20 juin 1996 lorsque le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-33 et que la loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée pour inclure l'orientation sexuelle comme motif de discrimination interdit. La loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations a été présentée le 11 avril 2000, élargissant la définition du terme « union de fait » pour inclure les couples de même sexe et leur donnant les mêmes avantages sociaux et fiscaux. Le 12 juillet 2002, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a statué qu'interdire aux couples de même sexe de se marier était inconstitutionnel et a donné à l'Ontario 2 ans pour étendre le droit au mariage aux couples de même sexe. Un an plus tard, le mariage du premier couple de même sexe au Canada était célébré. Au cours des années suivantes, d'autres provinces et territoires ont emboîté le pas. Puis, la loi sur le mariage civil a donné aux couples de même sexe le droit légal de se marier en vertu de la loi fédérale en 2005, faisant du Canada le 4e pays au monde à le faire. Pride de Toronto, 28 au 30 juin 2024. Si les Montréalais et les Québécois seront nombreux à se diriger à Toronto du 28 au 30 juin pour le Gay Pride, ils le feront évidemment pour l'ambiance festive et l'immense défilé qui se déroulera le dimanche 30 juin, mais aussi pour les grands événements et fêtes qui se tiennent durant le long week-end. En particulier, ceux du Festival du circuit Party, Prism Festival, du 27 juin au 1er juillet, avec 6 événements majeurs, Boot Camp, Glitterbox, Revival, We Party, La Lèche et Resist. Et pour les populaires parties pour la cause, ce sont des événements au bénéfice du centre communautaire des 519 qu'on connaît sous l'appellation de Green Space Festival. Le Starry Night, qui met en vedette un grand nombre de drags de l'univers de RuPaul Drag Race, mais aussi One World, Disco Disco, Lipstick Jonge et le très populaire Treehouse Party. Site web pridetoronto.com. Vancouver Pride, Canada Pride, 26 juillet au 4 août 2024. Canada Pride 2024 mettra en vedette les événements majeurs de Vancouver Pride, comme le Van Pride Fest et le défilé de la fierté de Vancouver, ainsi que d'autres ajouts comme une conférence sur les droits de la personne. Site web vancouverpride.ca. Fierté Montréal, 1er au 11 août 2024. Il n'est pas surprenant que la Fierté à Montréal, ville de festival par excellence, en soit un véritable festival de la diversité. Site web fiertémontréal.com. Fierté dans la capitale, du 19 au 27 août 2024. Du 19 au 27 août, la capitale fédérale s'apprête à vivre des moments de festivité et de plaisir pour les célébrations de la fierté. Plus diversifiées que jamais, ces activités ont été pensées pour grands et petits, alors qu'Ottawa se pavoisera des couleurs de l'arc-en-ciel. Comme par les années passées, le week-end du festival se tiendra du 25 au 27 août avec le festival de rue, des spectacles et le défilé qui réunira des dizaines et des dizaines de contingents tous plus colorés les uns que les autres. Site web capitalpride.ca. Fierté Sherbrooke, fin août ou début septembre 2024, date à confirmer. Événement festif, familial et inclusif, Fière la fête est une célébration de la diversité sexuelle et de genre en Estrie. Grand rassemblement des familles, des organismes communautaires, de la population étudiante et de la communauté estrienne en général, l'événement apporte une visibilité à la diversité sexuelle et de genre, en plus de créer un espace de partage et de réseautage. Outre un défilé de la fierté au centre-ville de Sherbrooke, la programmation comprend habituellement une journée communautaire, un panel de discussion et des activités pour tous et toutes. Site web fierlafête.ca. Fête arc-en-ciel, week-end de la fête du travail. Festival socio-artistique francophone de la fierté gay. Cet événement se déroule chaque année durant la fin de semaine de la fête du travail au cœur de plus de 400 ans d'histoire et de romance. Nous aurions bien aimé vous parler un peu de la programmation de cette 20e édition, mais l'équipe nous a fait savoir que le co-présentateur québécois en aurait l'exclusivité. Nous ne pouvons donc que présumer de la programmation. Site web fêtearc-en-ciel.ca. Date de quelques grandes fiertés ailleurs dans le monde cet été. West Hollywood, défilé le dimanche 2 juin. Provincetown, défilé le dimanche 2 juin. Washington, défilé le dimanche 9 juin. Rome, défilé le samedi 15 juin 2024, 30e anniversaire. Athènes, défilé le samedi 15 juin 2024. Chicago, défilé le dimanche 23 juin 2024. Thessalonique, défilé le samedi 29 juin 2024, Euro Pride 2024. Paris, défilé le samedi 29 juin 2024. Londres, défilé le samedi 29 juin 2024. New York, défilé le dimanche 30 juin 2024. San Francisco, défilé le dimanche 30 juin 2024. Glasgow, défilé le samedi 20 juillet 2024. Cologne, défilé le dimanche 21 juillet 2024. Berlin, défilé le samedi 27 juillet 2024. Amsterdam, défilé sur l'eau le samedi 27 juillet 2024. C'était La saison des célébrations de la fierté et de retour, un texte d'Yves Lafontaine, paru le 22 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Vivre vieux, comme Mathusalem, une chronique de Michel Vézina, paru le 24 mars 2024, dans L'eau vive en Saskatchewan. La science nous promet d'allonger notre espérance de vie. En tête, on a l'expression « vivre vieux comme Mathusalem » qui se rapporte à une personne qui a vécu très longtemps. Mais qui est ce Mathusalem au juste? Il faut se référer à la Bible pour faire connaissance avec ce personnage. Il est mentionné dans le livre de la Genèse, premier tome de la Bible. Descendant direct d'Adam et de son fils Seth, il est le grand-père de Noé, le fameux constructeur de l'arche. Mathusalem aurait vécu 969 ans, selon certaines interprétations. On peut imaginer les réunions de famille et surtout le nombre de personnes qui pouvaient s'y retrouver. Pourquoi je vous parle de Mathusalem? Si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, on a parlé de longévité et de la possibilité pour l'humain de vivre jusqu'à 120 ans et plus. L'allongement de la vie. De nos jours, nous expérimentons un phénomène qui n'a jamais été connu par l'humanité, sauf peut-être à l'époque de Mathusalem, l'existence simultanée de 5 générations. Vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants et vos arrière-arrière-petits-enfants. Si on se rapproche des 120 ans, ce sera 6 générations. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les conditions d'hygiène se sont considérablement améliorées. On se nourrit mieux, on comprend mieux la biologie humaine, on se tient en forme, bref, on a de meilleures conditions de vie. Évidemment, il y a des variations. Si vous vivez en milieu défavorisé, si vous vivez en milieu de guerre, si vous vivez en milieu de famine, pour ne donner que ces quelques exemples, votre espérance de vie est beaucoup plus courte. Mais dans des conditions idéales, avec l'évolution de la technologie, de la médecine, de la compréhension de notre milieu, les probabilités de vivre plus vieux sont de plus en plus élevées. Si on commence à se rendre à 120 ans et plus, cela provoquera des remises en question de notre façon de vivre. Jusqu'à quel âge voudra-t-on travailler? À quel âge devra-t-on recevoir des prestations de retraite? La maternité s'étendra-t-elle au-delà des limites actuelles de la ménopause? Aura-t-on une civilisation à deux vitesses, ceux qui ont les moyens de vivre cette longévité et les autres? Dans quel type d'environnement et d'hébergement vivrons-nous? Serons-nous un monde de femmes? Elles vivent plus longtemps que les hommes. Et la mort dans tout cela? Un scientifique, à qui on demandait son avis, a fait référence au livre de la Genèse, chapitre 6, verset 3. « Alors le Seigneur dit, « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare. » Il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 120 ans. Pourtant, il y a des exceptions. La Française Jeanne Calment est décédée en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours. L'homme le plus proche de ce record, le Japonais Jiho-Raymond Kimura, est décédé, lui, à 116 ans. Alors, vivre jusqu'à 120 ans et au-delà, ça vous tente? C'était « Vivre vieux comme Mathusalem », une chronique de Michel Vézina, parue le 24 mars 2024 dans L'Eau vive, en Saskatchewan.
Héros de notre histoire, Raymond Blain. Un texte de Serge Fizette, paru le 22 mai 2024 dans le magazine Fugue. Né en 1950, Raymond Blain a étudié à l'Université du Québec à Montréal et a obtenu une licence en droit de l'Université de Montréal. Premier échevin montréalais et politicien québécois à avouer son orientation sexuelle, il est également le premier candidat ouvertement gay à être élu au Canada. « Je veux, disait-il, faire de la politique d'une façon honnête. Il me semble important que la population sache qui je suis. En fait, c'était pour moi une condition pour me présenter à ces élections. Élu deux fois, en 1986 et 1990, sous la bannière du Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal, RCM, il représentera le quartier Saint-Jacques au conseil municipal. Membre du comité exécutif sous l'administration de Jean Doré, il pilotera de nombreux dossiers importants, dont celui de la sécurité. Travaillera au respect des droits de certaines minorités, dont les homosexuels, et veillera à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. On lui doit l'implantation de la ligne Infodrogue, la mise sur pied d'un programme de lutte anti-sida et la création de maisons d'accueil pour les victimes. Faisant suite aux années de répression systématique sous le règne du maire Jean Drapeau, son legs le plus important aura été de changer les rapports entre la communauté et la ville. C'est ce qui a ouvert la voie pour l'essor de la communauté et faire de Montréal une des grandes destinations homosympas du monde. En plus de lutter contre la drogue et la prostitution, il a participé à la création du Parc de l'Espoir sur la rue Sainte-Catherine, à la création du Centre communautaire des gays et lesbiennes, ainsi qu'au redéveloppement du Faubourg Québec et de la place Émilie-Gamelin. en 1994. C'est donc en son honneur et pour souligner son apport unique que la ville aménage un parc à son nom. Situé sur la rue Panet, entre les rues La Fontaine et Logan, le parc du Marchand devient alors le parc Raymond Blain. Depuis 2003, le site fait partie des Parcs vivants, un projet de revitalisation par la réappropriation citoyenne. On y trouve notamment une grande variété d'arbres tels le chêne fastigié, l'épinette du Colorado, le févier inerme, le marronnier d'Inde et le pin noir d'Autriche. Il a été récemment refait afin de favoriser la détente et le sport avec une aire de yoga où des cours sont offerts gratuitement. Un terrain de pétanque, des équipements sportifs, du mobilier urbain, des couleurs vives, une aire de pique-nique et un espace pour du compostage communautaire. Récemment réaménagé en intégrant les couleurs de l'arc-en-ciel, le parc Raymond Blain est devenu un gym à ciel ouvert. Voilà un hommage assurément précieux, permettant de sauvegarder la mémoire d'un héros de notre histoire disparu prématurément, décédé du sida en mai 1992, à l'âge de 41 ans. C'était « Héros de notre histoire, Raymond Blain », un texte de Serge Fizette paru le 22 mai 2024 dans le magazine « Fugue ».
Exploration pédagogique pour des stagiaires en enseignement. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 28 mai 2024 dans Le Franco, en Alberta. De futures enseignantes québécoises ont fait cap vers l'Alberta pour une immersion pédagogique et culturelle au cours des derniers mois. Dans le cadre du programme S3 Canada de l'Association canadienne d'éducation de langue française, ACELF, ces stagiaires ont eu l'occasion d'évoluer dans des écoles francophones de la province et de découvrir le contexte éducatif albertain. J'avais une classe de maternelle parfaite. Je ne pouvais pas demander mieux. J'ai vraiment été chanceuse, raconte Magali Bellan, qui revient à peine de son séjour à l'école des Hautes-Plaines, à Airdry. Le contact avec les jeunes, le plein air, la découverte. Elle affirme avoir apprécié chaque moment de son expérience. « Si c'était à refaire, je ne changerais rien », laisse-t-elle tomber. Durant son stage, l'étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire à l'Université du Québec à Rimouski s'est surtout surprise de constater le dynamisme de la communauté franco-albertaine dont elle avait antérieurement peu appréhendé l'ampleur. Elle a notamment participé à une multitude d'activités organisées en mars dans le cadre du mois de la francophonie. Cela a été une belle découverte. On relie souvent à tort le français à la culture québécoise au Canada, alors que c'est beaucoup plus vaste, relate-t-elle. Comme c'est le cas pour plusieurs stagiaires du programme, Magali résidait d'ailleurs en pension chez une famille francophone de la région, et ce, pendant toute la durée de son séjour. Cette expérience lui a permis d'établir un contact encore plus direct avec les membres de la communauté. « En fait, j'ai été étonnée que le milieu où j'ai été accueillie était autant francophone », mentionne-t-elle. Nuance pédagogique. Les quelques mois passés au sein du système scolaire franco-albertain ont également permis à la jeune femme de constater la pénurie de personnel francophone, ainsi que les lacunes dans les ressources disponibles dans la province. Il n'y a pas de techniciens en éducation spécialisés et pas assez de suppléants. Ils sont d'ailleurs vraiment moins bien payés qu'au Québec. Ce n'est pas idéal, explique-t-elle. Ce genre de constatation est assez fréquent lorsque les stagiaires s'aventurent à l'extérieur de la belle province, mentionne à son tour Amélie Bolduc, responsable des stages en enseignement de l'ACELF. Après tout, le programme S3 offre précisément aux futurs enseignants l'occasion de découvrir un milieu pédagogique différent de celui auquel ils sont habitués, ce qui peut être déstabilisant. Au Québec, Peu de gens savent qu'il y a des écoles francophones dans chacune des provinces et des territoires du Canada. Ces milieux-là ont beaucoup de choses à nous apprendre sur le plan des approches pédagogiques et culturelles, note-t-elle. Les provinces canadiennes ont notamment tendance à favoriser l'inclusion, de sorte que les élèves confrontés à des défis d'apprentissage ou de comportement puissent être intégrés dans les salles de classe ordinaires. Ce n'est pas toujours le cas au Québec. Alors, les stagiaires n'y sont pas toujours habitués. Il y a beaucoup plus de classes spécialisées et de sous-groupes qu'en Alberta, par exemple, analyse-t-elle. Les provinces de l'Ouest mettent aussi davantage l'accent sur l'histoire et la culture autochtone dans leur curriculum, ajoute-t-elle. Souvent, c'est dans plusieurs cours qu'ils en parlent. L'Ouest, grand coup de cœur. Depuis près de 25 ans, la collaboration entre l'ACELF et les 28 conseils scolaires francophones hors Québec, dont le Franco-Sud et du Nord-Ouest qui ont participé à l'initiative cette année, permet d'arrimer les propositions de stage avec les besoins sur le terrain. On reçoit plusieurs demandes à travers le pays, mais je ne le cacherai pas, l'Ouest est populaire parmi les étudiants pour plein de raisons évidentes, notamment le plein air et les Rocheuses, mentionne Amélie Bolduc. Malgré cet attrait évident, la chargée de projet rappelle souvent aux stagiaires que tous les lieux de stage offriront une expérience enrichissante sur le plan culturel. On sous-estime parfois le dépaysement. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même pays que les réalités sont les mêmes, souligne-t-elle. C'est cet appel des Rocheuses qui a persuadé Coralie Ouellet d'effectuer son stage à l'école de la Rose Sauvage à Calgary, elle qui nourrissait depuis longtemps le désir de découvrir la région. Une expérience qui s'est révélée être à la hauteur de ses attentes. « J'ai fait des rencontres inoubliables et j'ai tellement appris. Je suis allé chaque fin de semaine dans les montagnes. Moi qui aime vraiment le plein air, j'ai fait du ski au lac Louise et le plus d'activités possibles », confie cette future enseignante de sciences au secondaire. Elle met en lumière l'apport financier crucial de l'ACELF qui lui a permis de couvrir presque la totalité des frais de voyage. « Je ne pense pas que j'aurais pu rester 2 mois dans l'Ouest sans leur soutien et celui de mon université », partage-t-elle reconnaissante. C'était « Exploration pédagogique pour des stagiaires en enseignement ». Un texte de Gabriel Audet-Michaud paru le 28 mai 2024 dans Le Franco en Alberta.